Vous écoutez VOA Afrique, il est 15h à Washington DC, 19h en temps universel. Rosine Mounezero dans ce studio pour vous présenter son bulletin d'information. Bonsoir et bienvenue. Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu a appelé dimanche à la fin des manifestations contre la vie chère et à mettre un terme aux effusions de sang après qu'au moins 13 manifestants ont été tués par les forces de l'ordre selon Amnesty International. Des milliers de personnes ont manifesté jeudi et vendredi contre la mauvaise gouvernance et la hausse du coût de la vie au Nigeria qui traverse une grave crise économique. M. Tinubu a exhorté les manifestants à suspendre toute nouvelle protestation et à créer un espace de dialogue. Les organisateurs des manifestations ont promis de poursuivre leurs actions dans les prochains jours, malgré les avertissements des autorités. En Somalie, au moins 37 personnes ont été tuées et de nombreuses autres blessées dans un attentat suicide suivi de tirs d'hommes armés. Vendredi soir, sur une plage fréquentée de la capitale somalienne Mogadiscio. L'attentat a été revendiqué par le groupe islamiste radical Shebab lié à Al-Qaïda. Selon la police et des témoins, un kamikaze s'est fait exploser vendredi soir sur la plage du Lido, fréquentée par des hommes d'affaires et des fonctionnaires. Des assaillants ont ensuite ouvert le feu sur la plage. Au Soudan, 23 civils ont été tués samedi dans la ville assiégée d'El Fasher, capitale du nord Darfour, après un bombardement d'artillerie mené par les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR, a indiqué un groupe local pro-démocratie. Les bombardements des paramilitaires sur cette ville ont déjà causé entre le 27 et le 29 juillet la mort de 65 personnes, principalement des femmes et des enfants. En République démocratique du Congo, la rébellion du M23 s'est emparée dimanche d'Ishasha, une localité frontalière de l'Ouganda dans l'est du pays où un cessez-le-feu était censé démarrer, a-t-on appris de sources locales. Cette prise a eu lieu au lendemain de la chute de Nyamilima, grosse agglomération voisine tombée elle aussi sans combat selon les habitants. Les nouvelles autorités sénégalaises ont convoqué samedi l'ambassadeur d'Ukraine à Dakar pour avoir publié une vidéo de soutien aux récentes attaques meurtrières contre l'armée malienne et ses alliés russes, a indiqué le ministère sénégalais des Affaires étrangères dans un communiqué. Constant dans sa position de neutralité constructive dans le conflit russo-ukrainien, le Sénégal ne peut tolérer une quelconque tentative de transférer sur son territoire la propagande médiatique en cours dans ce conflit, a dit le ministère des Affaires étrangères.
VOA Afrique en direct de Washington.
Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a rencontré dimanche à Téhéran son homologue iranien sur fond de crainte d'une escalade militaire entre l'Iran et Israël après l'assassinat du chef du Hamas et d'un haut responsable militaire du Hezbollah. Jugeant sensible la situation au Moyen-Orient, le ministre des Affaires étrangères par intérim de l'Iran, Ali Bagheri, a affirmé que la détermination de l'Iran à réclamer des comptes auprès d'Israël était sérieuse. La défense civile de Gaza a annoncé au moins 30 morts dans une frappe israélienne dimanche sur deux écoles situées dans un complexe scolaire à Gazaville, abritant des milliers de déplacés par la guerre dans la bande de Gaza. La frappe visant les deux écoles a été confirmée par l'armée israélienne, affirmant qu'elles abritaient un centre de commandement et de contrôle du Hamas, mouvement islamiste palestinien contre lequel Israël est en guerre dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Les heurts entre opposants à la première ministre Sher Hasina, forces de l'ordre et partisans du parti au pouvoir ont fait au moins 77 morts dimanche au Bangladesh, l'une des journées les plus meurtrières depuis le début des manifestations antigouvernementales dans le pays. Le précédent bilan faisait état de 50 personnes tuées. Ce bilan sanglant de dimanche porte à au moins 283 le nombre de personnes tuées depuis le début des manifestations en juillet.
Tradition.
V. vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bonsoir et bienvenue dans le dialogue des religions. Ce soir, nous nous penchons sur la controverse qui entoure la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024. Alors que le spectacle a été largement acclamé pour son audace artistique, il a également suscité une vague de critiques de la part de personnalités conservatrices et religieuses à travers le monde. De Donald Trump qualifiant la cérémonie de honte, à Recep Tayyip Erdogan dénonçant l'immoralité des représentations en passant par des réactions virulentes de la part d'autorités religieuses, chrétiennes et musulmanes. Nous explorons les différents points de vue et réactions face à ce spectacle qui a mis le feu aux poudres. Nous aborderons également les réponses des organisateurs et les répercussions sur la scène internationale. Vous êtes avec Eric Manilakiza au micro, Michel Claire-Joseph assure la réalisation. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Tarsis Halelimana, journaliste olympique indépendant basé à Ottawa au Canada. Tarsis, bonsoir.
Bonsoir Eric.
Frida Darmani, journaliste à Tunis et correspondante de Jeune Afrique. Bonsoir Frida.
Bonsoir.
Yacine Amono, il est artiste d'origine algérienne, il est à Paris. Yacine, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Oui, Yacine, je vais commencer avec vous. Quels éléments spécifiques de la cérémonie d'ouverture ont été perçus comme offensants pour la communauté chrétienne, brièvement?
Globalement, il y en a eu plusieurs. Hein. C'est ce qui justement a fait défaut à cette cérémonie d'ouverture. Dans un premier temps, on a effectivement pu voir la scène tirée du tableau de Léonard de Vinci qui a été parodié, effectivement, il y a eu quand même un choc de la part de différentes communautés de cette scène où on a eu l'occasion de voir des hommes déguisés en femmes, des femmes déguisées en hommes, des enfants au milieu de tout ça, et puis des prestations artistiques avec des personnes dénudées qui, pour le coup, concernant en tout cas cette cérémonie d'ouverture sportive, n'était pas vraiment adaptée. On a eu aussi l'occasion de voir une drag queen chanter, danser, se trémousser, ce qui a aussi quand même été perçu comme complètement inadapté par rapport à l'événement. Plusieurs autres scènes, plusieurs autres tableaux ont pu choquer aussi, mais portent quand même le débat sur aujourd'hui qu'est-ce qui est artistique, qu'est-ce qui est politique, quelle est la limite entre les deux. C'est vrai que il y a différents points de vue en fonction de là où on va se positionner. En ce qui concerne la communauté africaine, de manière assez globale, il y a eu un choc par rapport à ces différents tableaux qui n'étaient pas forcément aujourd'hui familial, en tout cas pas adapté notamment pour les enfants et pour des personnes qui ont des sensibilités religieuses assez prononcées. Globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que là, cette cérémonie a été censurée dans pas mal de pays d'Afrique et du monde. On a pu voir différents lives, notamment même sur Internet, où des scènes ont été coupées. Ou même directement, on pouvait tout simplement voir le Louvre, par exemple, des chaînes qui ont décidé de filmer le public, par exemple, pour éviter en fait de diffuser effectivement à leur communauté et à leur nation ces différents tableaux qui peuvent être choquants.
Merci Frida. Est-ce que vous pensez que les critiques religieuses à l'égard de cette cérémonie sont justifiées ou croyez-vous qu'elles révèlent davantage de la sensibilité culturelle que d'une véritable atteinte aux croyances?
D'abord, Eric, si vous le permettez, je vous reprendrai tout à l'heure, vous avez parlé de réaction de la part de conservateurs. Je dirais, avec le recul de ces trois jours, je dirais que ce ne sont pas des conservateurs, ce sont des gens qui voient autrement le monde, parce qu'on peut très très bien ne pas être conservateur et avoir été quand même choqué ou indigné à différents niveaux par ce spectacle qui a quand même duré 4 heures. Tout simplement parce qu'il y manque quelque chose de très très important, le sport et les athlètes. On les a vus comme des petites figurines sur les bateaux. Et où est-ce qu'ils étaient après? Après, on a eu les porte-drapeaux qui sont allés sur la place centrale du Trocadéro parce qu'il n'y avait pas de place pour les athlètes. Donc, il n'y a eu que les porte-drapeaux. L'essentiel des Jeux, c'est justement cette rencontre, c'est l'humain, C'est ce facteur humain qui est important, des gens qui peuvent se retrouver, se fédérer et être ensemble et transcender leurs différences pour le sport et par le sport. On n'a rien vu de tout ça. Donc pour en revenir à votre question, il est normal que certaines choses choquent. Alors chez les musulmans, il y a eu une réaction très paradoxale. Ils ont fait le parallèle entre les réactions qui avaient été jugées exagérées chez les musulmans quand il y a eu les publications des satires autour du prophète Mahomet. Et maintenant, la réaction par rapport à la scène, ça a été de dire, voilà, vous comprenez aujourd'hui ce que nous, on a ressenti. Surtout qu'en plus, il y a aussi autre chose qui est inacceptable, c'est le déni. Il est des millions de personnes, presque des milliards de personnes ont vu la scène, ils se sont dit c'est la scène de reprise sur Léonard de Vinci et sur d'autres scènes, hein. Il n'y a pas eu que Léonard de Vinci pour représenter la scène. Et non, les auteurs ont dit non, nous on s'est inspiré d'un peintre flamand du 17e qu'on très peu connaissent, un truc très confidentiel qui est exposé au musée de Dijon dont on ignorait même l'existence. C'est un peu gros quand même. Et puis il y a aussi autre chose qui me dérange un peu dans tout ça, c'est on n'est pas censé savoir quand on assiste à un spectacle, on attend que le spectacle nous nourrisse. Il n'y a eu aucun conducteur. On est resté. Qui pourrait nous dire aujourd'hui la personne qui chevauchait le cheval avec le drapeau olympique pour porter le drapeau olympique au Trocadéro, qu'est-ce qu'elle représentait? Personne ne nous l'a dit. On a juste vu une super prouesse technique, magnifique, ça c'est vrai, mais personne ne savait qu'elle représentait la déesse celte de la résistance. Et aussi, pourquoi ce choix de la déesse celte et pourquoi la résistance? Dans toutes ces étapes, on nous a montré ces différents tableaux. Il n'y a eu aucun moment un espèce de conducteur donné au téléspectateur qui, le malheureux, était là en train de se dire « Oh, je dois être totalement ignorant par rapport à cette grande culture parisienne. » Ce n'est pas la culture française.
Tarsis, quel est votre point de vue sur la manière dont la cérémonie a été interprétée par des groupes religieux?
Ben, écoute, moi c'est normal parce que les Jeux Olympiques, c'est ça en fait. Est-ce que vous allez considérer les Jeux Olympiques comme une religion ou quoi? Et c'est quand même un grand événement qui rassemble toutes les religions du monde. Alors moi j'ai eu la chance d'assister à 6 Jeux Olympiques depuis les Jeux d'Atlanta jusqu'aux Jeux de Rio. J'ai aussi analysé tout le cérémonial des Jeux du passé. Aujourd'hui on est à l'ère Internet, on est dans ce circuit réseaux sociaux qui dérange un peu, et ça se comprend. Mais imaginez un peu que Thomas Joly doit faire en 2 heures une sorte de tableau, 12 tableaux qu'il a présentés et qui représentent aussi une partie de l'histoire de la France. Et dans cette histoire de la France, on ne peut pas oublier que les Jeux Olympiques sont antiques. Les Jeux Olympiques ne sont pas, sont arrivés. Qui n'est pas monothéiste. C'est un rituel païen, si vous voulez, polythéiste. Donc à ce moment-là, on a trois, finalement, confrontations. Il y a d'un côté le sport en tant que religion, de l'autre côté, il y a les religions monothéistes et d'autres religions. Et la bataille du Comité international, la réussite que le Comité national olympique, c'est d'avoir, même les organisations internationales, d'avoir accepté et faire en sorte que les jeux se déplacent d'un continent à l'autre. Que ces jeux aillent en Chine, qu'ils aillent au Japon, que les championnats du monde passent au Qatar, dans des pays arabes. Mais de tout ça, c'est normal. Moi, je n'ai pas été étonné de ce qui s'est passé. Alors, évidemment, il y a eu des excuses. Première excuse, c'est Thomas Joly qui affirme que l'interprétation qu'il a fait, la référence à Dionysos, qui arrive sur cette table, il est là pour passer tout simplement. Dionysos est le dieu de la fête, c'est les Grecs. Donc il fallait quand même présenter ce tableau en se référant aux Jeux Olympiques antiques. Alors, sa référence à la scène de Léonard de Vinci, je ne sais pas, mais ce n'est pas la fin, ce passage du Nouveau Testament, comme le dit Thomas Joly, puisqu'il dit écoute, Dionysos, le dieu divin ces terres de ces canards, des yeux reliés au fleuve. Et ce fleuve, c'est la Seine. Donc, en fait, quand il y a une autre image qui choque, c'est la guillotine, dont on a montré là-bas. Cette guillotine, évidemment, on ne fait pas, n'a pas ses références à la Révolution française. On ne fait pas aussi, n'a pas quand même ses références à l'environnement actuel, à tout ce qui se passe. C'est-à-dire, il y a l'évolution de cette France, il y a l'Antiquité, il y a la Révolution française, il y a la rénovation des jeux, et malheureusement, pour Coubertin, il devait, malheureusement pour certains, Coubertin, à ce moment-là, en 1894, il devait se référer à une histoire qui est l'histoire antique des Jeux olympiques antiques. Et le pape ne relit pas ça. On a vu que le pape était, a demandé qui en faisait le feu. Donc, à cause des Jeux olympiques de Paris. Je pense que là, on peut aller en définition pour voir que le comité international peut être victime de ces valeurs qui ressemblent aux valeurs des religions monothéistes qu'il faut sauvegarder. Et moi, je pense que ça va passer, évidemment. Et les chaînes de télévision ont fait bien d'effacer certaines scènes. Le comité d'organisation a demandé pardon à ce que certaines scènes ont choqué, et même, évidemment, à Thomas Pelly, qui s'est expliqué.
Merci, Tarsis. Je me retourne vers vous, Yacine. En tant qu'artiste, comment trouvez-vous le juste équilibre entre la liberté artistique et le respect des croyances religieuses dans des événements d'envergure internationale?
Ça se rejoint en fait à ce qu'on appelle simplement la liberté d'action. Ça dérange à partir de quand c'est légal ou pas. Là, pour le coup, il est vrai, il faut quand même l'avouer, que sur tous les différents tableaux de la cérémonie, il y a eu un certain équilibre. On n'était pas non plus sur du 100% choquant. Donc il y a eu quand même un certain équilibre. On a pu voir la prestation de Céline Dion, on a pu voir différentes prestations qui, au niveau artistique, ont pu plaire et ont pu réunir. Qui est quand même normalement l'objectif des JO, de réunir justement toute religion, tout type de croyance, tout type de communauté, toutes les nations finalement. Et donc là, la limite, c'est vrai qu'elle est vraiment sur le simple fait que pour le coup, on est sur une cérémonie publique et mondiale. Elle n'est pas ciblée. J'ai entendu tout à l'heure, effectivement, faire le parallèle avec Charlie Hebdo et les fameuses caricatures de Mahomet. Mais effectivement, là, on est sur en fait une cérémonie qui est organisée par le gouvernement français. Donc, on n'est pas sur un journal satirique. Et donc, là, pour le coup, il doit y avoir en fait une certaine approche, une certaine, j'allais dire, humilité à respecter les différentes sensibilités des différentes communautés, ce qui là pour le coup n'a pas été le cas. Et je suis, moi, de mon côté, à peu près certain que même des artistes woke, hein, pour mettre des guillemets, ont aussi été choqués par certains tableaux. Et donc la limite, elle est là. Elle est que à partir du moment où on est sur un événement public, familial, avec des enfants qui regardent, quelle que soit la prestation artistique, elle doit quand même respecter les sensibilités. Et là, effectivement, ça n'a pas été le cas. Et la limite est là. La limite est où, à partir du moment où on sait qu'on peut choquer, qu'on peut déranger, on n'est plus vraiment sur une prestation artistique respectable, en fait. Hein. On est vraiment sur autre chose, hein, pour ne pas dire un message politique. Donc, voilà, je pense que la limite est là, en tout cas, sur le simple fait que, voilà, là, c'est vraiment public et familial, et que donc, on a quand même, entre guillemets, un peu dépassé les bornes. Et il est vrai que, ne serait-ce que le fait qu'on en parle aujourd'hui, que ça ait fait polémique, c'est décevant. C'est assez décevant.
Nous sommes dans le dialogue pour trouver une issue heureuse. Frida, pensez-vous qu'il est possible de concilier la créativité artistique avec le respect des symboles religieux dans de tels spectacles?
Ce n'est pas uniquement une question de respect des symboles religieux, c'est un respect de l'être humain. Quand on s'adresse à des millions de personnes qui sont de toute obédience, qui ne sont pas forcément religieuses, il y a certainement, quand on s'adresse à des hindouistes, à des catholiques, à des musulmans, à des juifs, bien entendu, il n'y a pas que les religions monothéistes, etc. Il y a un respect à avoir. Et ce que disait l'un de vos interlocuteurs, justement, c'était que il rappelait que justement les Jeux Olympiques sont une création d'une époque païenne, d'une époque où il y avait l'Olympe, c'était les dieux, etc. On était dans une autre dimension et ça s'adressait aux Grecs et encore peut-être uniquement Athènes, c'est encore à vérifier. Mais je ne cautionne pas tout à fait ce que je dis, je ne l'ai pas vérifié. Mais autrement, ce qui est aussi choquant, c'est que il s'agit de la joie. Moi, j'aurais voulu ressentir la joie. On m'a présenté un super catalogue de Paris vu par les Parigots, je n'ai rien vu de la France. À part si il y avait une paysanne berrichonne qui a dansé une petite bourrée là sur la fameuse passerelle avant qu'il y ait la représentation de la Seine, mais ça s'est arrêté là. La France c'est autre chose. Il y a par exemple le vin, qui est justement, sans que ce soit le culte de Bacchus, qui peut être source de fraternité entre les personnes, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui auraient pu être développées. Et quelque chose aussi autour du sport. La France ne manque pas de grands athlètes, de grands performeurs, et ça depuis que les JO ont été relancés par Pierre de Coubertin, enfin, et toute son équipe. Donc voilà, c'est ce qui m'a manqué, et j'espère que la cérémonie de clôture va rattraper ça. Je voudrais que vraiment on puisse voir des gens qui ont été dans la compétition mais qui se sont pas fait la guerre. C'est ça le message qu'on doit faire aujourd'hui, surtout qu'on doit transmettre, qu'on doit relayer comme ils ont relayé la flamme olympique à travers justement quand on est vu par des millions de personnes à travers tous ces médias, la télévision, l'internet, etc. C'est à quoi ça sert, à cela aussi, pas uniquement à quand vous me dites qu'est-ce que vous avez vu de Paris, on a vu des mâles Louis Vuitton. Mais ça veut dire quoi?
Oui.
Et on vit. Voilà, donc je regrette vraiment, moi qui connais bien la France, qui aime la France, il y a aussi autre chose. La France a raté une superbe... Vous permettez juste que je signifie ça. Que venez faire le drapeau de l'Union européenne en plein milieu du spectacle? Si c'est pour parler de fédération, il y a des tas d'autres fédérations. C'est les Jeux Olympiques qui s'adresse à l'humanité, à ceux qui habitent cette planète.
Ouais.
Donc voilà, il y a eu beaucoup de maladresses. J'espère qu'on ne les verra pas à la clôture, ouais. Tout simplement.
Tarsis, toutes ces réactions internationales des leaders religieux et politiques influencent la perception publique de cette cérémonie. Selon vous, comment les organisateurs... des organisateurs des JO pourraient-ils éviter de telles controverses à l'avenir tout en maintenant une cérémonie spectaculaire?
Oui, mais écoute, Eric, vous avez 2 heures de spectacle, 2h30 de spectacle qu'il faut. Et là, il y a plusieurs options qu'il faut faire. Il y a d'abord l'histoire du pays, le contexte qu'il faut. Et puis il faut aussi montrer la belle image ou les belles images de votre histoire. Il y a aussi le côté artistique, le côté touristique. Mais il y a aussi les valeurs du comité international, les valeurs du sport. Et là, vous êtes dans un contexte assez difficile et particulier où l'État, le gouvernement français a signé, a accepté de respecter la charte olympique. La vision du CIO, qui est celle de bâtir un monde meilleur, les valeurs excellence, respect, amitié, et c'est surtout actuellement où on parle de l'inclusion et de l'égalité. Mais du côté de la France aussi, je pense, avait aussi affaire à cette France de liberté, d'unité, d'expression, cette France modèle qui a marqué l'humanité d'une certaine manière, l'histoire de la France. Et nous, au niveau, moi j'enseigne les valeurs olympiques, j'enseigne la vision, les valeurs et également la devise olympique que nous créons et aujourd'hui on a mis ensemble. Attention, tout le rituel des Jeux Olympiques est un rituel monothéiste, c'est un rituel païen et polythéiste. Donc en fait, ce que j'ai aimé de tous ces 12 tableaux, hormis les critiques, bon, moi j'imagine ce qui aurait se passé aux Jeux Olympiques d'Atlanta auxquels j'avais assisté, où j'ai vu l'image de Martin Luther King à Ebbe Dream, son discours prononcé, ce qu'aurait la réaction à ce moment des États-Unis quand on avait les réseaux sociaux. Est-ce que vous imaginez au temps d'Hitler en 1936 les Jeux Olympiques marqués, décorés, tout le stade décoré par de la croix gammée, s'il y avait les réseaux sociaux à l'époque qu'on aurait reçu comme critique. Et donc c'est ça en fait, je pense que le comité international olympique Et les femmes doivent s'adapter et finalement comprendre l'environnement du monde contemporain actuellement.
Oui,
alors évidemment, bien sûr, le comité d'organisation a la charge de bien confectionner effectivement ce cérémonial de jeu. Je pense qu'à un moment donné, même le comité d'organisation avait été aussi perturbé. Et d'une manière générale, il fallait montrer la ville et la scène. Donc ça, c'est bon. Et je pense que le metteur en scène a été plus ou moins capté par cette image de Paris, Paris historique, comme aux Jeux olympiques de 1960, où Rome avait des difficultés, évidemment, l'Italie avait des difficultés à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. On avait évidemment que les peintres italiens étaient mis à l'honneur. Donc c'est l'image du Christ que cette ville céleste, cette ville touristique des papes était mise en valeur. Donc tout dépend. Alors aujourd'hui, on est dans un contexte assez particulier. Alors imaginez aussi, mais ce que j'ai retenu de cette cérémonie d'ouverture, qu'on raconte n'importe quoi, et ça, je me dis qu'ils ont le droit de protester. Ça choque évidemment, ça doit choquer. C'est qu'on a vu Aya Nakamura, qui n'a pas chanté l'hymne à l'amour des dix papes, mais qui a laissé à ses niveaux, mais elle a chanté quand même devant l'Académie française face à la garde républicaine, et elle a été critiquée. On a beaucoup parlé de Zidane, mais ce qui est important pour nous, c'est que Zidane, le français, l'origine française d'origine algérienne, passe le flambeau à Nadal, l'espagnol, et puis cette vedette est rejointe par les légendes du sport, Carl Lewis, Serena Williams, Nadia Comici. Donc voilà en fait ce qui est important. Et puis, on parle de ces Guadeloupéens. Il s'impose, c'est dit René Marie-José Perrin, c'est les derniers qui allient la femme olympique. Voilà des valeurs que le comité international olympique cherche, tout comme aux Jeux olympiques de Sydney, on aurait imaginé que Cathy Freeman, d'origine aborigène, allie la femme olympique.
Oui.
Voilà ces images. Et vous avez salué Eric, l'équipe de gymnastique, multicolore, l'or pour Simone Biles, Suzanne Lee, Jordan Chelis, Vedi Carré et Rivera, qui enchantent, qui glorifient l'Amérique. C'est l'Amérique qu'on veut.
Oui, il me reste 2 minutes, on va essayer de les partager. Une seule question à vous tous, comment voyez-vous l'impact de cette polémique sur le dialogue interreligieux et sur la manière dont les événements culturels sont perçus par les différentes communautés? Yacine, en 45 secondes.
Finalement, quand on regarde ça d'un étage au-dessus, je pense que ça peut plus se rapprocher justement les différentes communautés religieuses, contrairement à ce qu'on peut penser. Mais en fait, effectivement, là, il y a eu quand même un soutien, que ce soit de la communauté juive, de la communauté musulmane, sur cette parodie faite de Jésus, en fait. Hein. Donc, ça a plus réuni, je pense, les communautés religieuses qu'autre chose. Par contre, ça a effectivement créé une sorte de division entre les athées agnostiques et effectivement les personnes croyantes.
Tarsis, le dialogue interreligieux.
Oui. C'est toutes les religions qui se réunissent, tous les athlètes en provenance de plusieurs religions, même des religions qu'on ne connaît pas, ils sont là. C'est ça l'exemple. Donc les Jeux olympiques sont pour tous et sont ouverts à tout le monde.
Frida.
Non, l'art a été le fil des princes pendant très longtemps, et surtout les princes de l'Église. Sans eux, il y aurait des tas de peintres donc on ne connaîtrait pas. Aujourd'hui, peut-être que l'art vient justement de ces difficultés de faire passer certaines idées ou d'aller vers des extrêmes, et c'est peut-être là une autre forme de création.
Merci.
Il faut toujours avoir un côté confiance dans l'humain quand même. Et nous attendons la soirée de clôture.
Merci beaucoup à Tarsis Harelimana, journaliste olympique indépendant, basé à Ottawa au Canada. Frida Darmani, journaliste à Tunis. Yacine Amono, artiste d'origine algérienne qui est à Paris. Nous avons donc exploré dans cette émission la controverse religieuse suscitée par la cérémonie d'ouverture des JO de Paris 2024 entre critiques de leaders conservateurs et religieux et débats sur la représentation artistique. Vous avez aussi suivi les enjeux et les réactions mondiales face à cet événement controversé et les points de vue de nos invités. Eric Manilakiza vous souhaite une agréable soirée. Merci également à Michel Claire-Joseph.